C'est une question qui a souvent été posée sur le plateau du Média, notamment dans le cadre de l'émission L'œil de Moumou. Faut-il aller, quand on est porteur d'une pensée alternative, sur les plateaux mainstream, et y a-t-il un mode d'emploi, un manuel de combat pour parvenir à se servir de ce dispositif, à la diffusion massive, et faire avancer ses idées ? L'invité que je reçois aujourd'hui est un journaliste indépendant qui travaille notamment pour le monde diplomatique. Journaliste et auteur également, notamment de « Rendre les coups, boxe et lutte de classe » paru aux éditions Le Passager clandestin, et co-auteur avec Nicolas Framont de « La guerre des mots, combattre le discours politico-médiatique de la bourgeoisie ». Selim Derkaoui a en quelque sorte infiltré une émission en prime time de BFM TV, le 20h Ruquier, qui n'a pas eu le succès escompté et qui n'existe plus désormais. Et il ressort de ce voyage en terrain hostile avec un article passionnant publié par Frustration Magazine, dont il a été il n'y a pas si longtemps le co-rédacteur en chef. Le titre de ce papier, vous voulez rejoindre le Hamas si vous voulez, mon éphémère expérience de chroniqueur sur BFM TV. C'est l'heure des combats de l'info. Salut Selim.
Salut.
Alors j'aimerais que tu commences par nous raconter comment tu as été embarqué dans le bateau de Laurent Ruquier et de BFM TV.
Alors c'est très simple, c'est que j'ai sorti mon livre « Rendre les coups, boxe et lutte des classes » en octobre de l'année dernière. Je l'avais déjà annoncé sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter l'été dernier. Et Ruquier a vu mon livre passer. En plus, il a vu qu'il était préfacé par Médine Le Havre, Ruquier vient du Havre aussi, donc il y a eu des points communs comme ça qui se sont faits. Il m'a contacté pour me proposer d'être l'un de ses chroniqueurs pour la rentrée sur BFM. Bon, comme on le sait, il y a beaucoup de journalistes, notamment de ces médias-là. Leur source principale d'information, c'est Twitter, et pas vraiment ce qu'il y a autour. Donc c'est comme ça qu'ils peuvent repérer des gens, des journalistes, des chercheurs, des chercheuses, etc., pour potentiellement alimenter leurs émissions ou même des fois leurs propos.
Alors, tu as failli ne jamais intervenir, puisqu'avant même le début, Marc-Olivier Fogiel, le boss de BFM, a presque mis son veto. Pourquoi et comment ça s'est passé ?
Alors déjà, moi, initialement, je me posais la question, est-ce que j'accepte une telle proposition, en sachant que je sais très bien comment ces médias-là fonctionnent. On voit très bien, même quand on est tout simplement spectateur ou spectatrice de tels débats, que c'est très compliqué, comme tu disais dans ton introduction, quand on a une voix dissidente, d'autant plus ces derniers temps, comme on le voit avec ce qui se passe avec la Palestine et les propos qu'on peut avoir pour défendre et soutenir le peuple palestinien. C'est très compliqué de plus en plus, donc j'étais pas dupe de savoir dans où j'allais mettre les pieds. J'ai réfléchi et je me suis dit deux choses. La première, c'est d'en profiter, de pouvoir enfin être de l'intérieur pour ensuite pouvoir le raconter. Donc j'avais déjà un petit carnet dans ma tête en me disant accepte parce que déjà tu peux le raconter plus tard. Tu sais potentiellement que ça va mal se passer, mais peut-être que ça peut aussi bien se passer. J'avais un petit peu confiance, un minimum, en Ruquier, en pensant on n'est pas couché, même s'il a fait repérer Zemmour, et ça j'en parle dans le papier, et qu'il a été, lui, dit naïf là-dessus, mais c'est beaucoup plus grave que ça, parce qu'on a financé Zemmour indirectement, payé par le service public. Donc tout ça, j'étais pas dupe, mais je me disais, ça peut être un peu moins pire que BFM en tant que BFM. Il est plutôt sympathique au demeurant, je l'ai rencontré, etc. Et puis je me disais financièrement...
Il a aussi fait monter beaucoup de voix alternatives.
Ouais, oui, je cite Émeric Caron, Natacha Polony, etc. Donc pourquoi pas, dans une moindre mesure, pourquoi pas. Et du coup, voilà, j'ai réfléchi à ça, puis financièrement aussi. Je suis journaliste indépendant, je me suis dit que ça pouvait faire quand même une source de revenus qui peut être un peu régulière, donc je projetais un petit peu en me disant si ça se passe à peu près bien, voilà, ça peut être intéressant pour moi, en sachant que beaucoup d'autres journalistes comme moi peuvent avoir de l'héritage, un appartement payé à Paris ou des choses comme ça qui peuvent leur permettre de refuser des propositions comme ça, problématiques. Moi, c'est moins le cas, donc j'ai pensé aussi pragmatique, et puis pour avoir une voix évidemment différente en infiltrant ce genre de système.
Et effectivement... Et puis en plus, excuse-moi la parenthèse, mais dans les milieux populaires, si tu vas raconter... Dans la famille que tu as refusé de bosser, les gens ne vont même pas comprendre.
Merci de me le dire, tu as tout à fait raison, parce qu'effectivement, je pensais à ma grand-mère qui adore regarder la télévision, elle se disait « Ah bah, t'es journaliste, donc du coup, pour moi, mon idéal, c'est que tu sois à la télé. » Donc même si je lui disais « Écoute, avec mon positionnement, tu ne vas pas me voir souvent à France 2 ou sur BFM », là, c'était le cas, effectivement, il y avait au moins cette reconnaissance, parce que pour ces médias-là, c'est toujours un cadeau qu'ils te font. C'est qu'ils savent très bien que c'est un capital symbolique important, le fait d'être médiatisé au niveau de la télé, donc ils savent très bien qu'en te proposant, limite pas le choix de dire non, et c'est pas normal si tu refuses. Donc ils te prennent un peu au piège comme ça, en te complimentant aussi. Et j'ai été assez, évidemment, plus ou moins surpris quand Ruquier m'a dit lui-même que j'ai failli sauter dès le départ, parce qu'effectivement, sur Frustration Magazine...
Elle est honnête, hein.
Oui, pour le coup, ouais. Après, peut-être que c'était aussi une manière de me garder, que je parte pas en cours de route. Mais en tout cas, oui, ils ont vu mes papiers sur Frustration avec Nicolas Framont, où on disait tout le monde déteste BFM TV, ça c'était l'un des titres, je pense qu'ils sont tombés dessus en deux clics, ça demande pas beaucoup de recherche. recherche et d'enquête. Donc, voilà.
Ce qui est étonnant, c'est que le patron lui-même enquête, farfouille pose son veto.
Ça, c'est quand même... moi, en général, l'analyse que je faisais par rapport aux médias, c'est toujours de me dire qu'ils sont tellement bêtes et tellement aux ordres qu'ils n'ont pas besoin de coup de fil. C'est que finalement, il n'y a pas besoin d'hommes politiques ou de patrons pour leur dire quoi faire, quoi penser. Ils font partie de la même classe sociale. Ou alors, s'ils ne font pas partie de la bourgeoisie, ils font partie de la sous-bourgeoisie, donc la classe un peu en dessous, mais qui veut aspirer à devenir de membres de cette classe sociale-là. Donc, ils peuvent réciter par cœur ce que le pouvoir attend de leur part. Là, le fait que Ofogiel, dès le départ, me mette un peu dans l'ambiance, finalement, c'est que je pense qu'on passe un cap dans les médias en ce moment. Je pense qu'il y a encore 15 ans, c'est quelque chose qui ne se faisait pas parce qu'il n'y avait pas besoin de le faire, c'est qu'il récitait par cœur. Là, je pense qu'il y a tellement un resserrement, il y a tellement une peur du pouvoir par rapport aux gilets jaunes. Je pense qu'ils ont en souvenir les gilets jaunes qui venaient au siège de BFM, ça c'est quand même très nouveau. Ils ont toutes ces craintes-là et je pense qu'il y a un resserrement et qui fait qu'aujourd'hui, le patronat lui-même peut vraiment appeler et mettre son veto dessus. Ce qui est vraiment un cas.
D'aller en première ligne parce que les journalistes seraient un peu laxistes, etc. Selon
je pense qu'ils ont encore une plus grande frayeur qu'il y a encore 15 ans, qui font qu'ils sont encore plus, ils rentrent plus dans le jeu et peuvent carrément solliciter ou dire explicitement qu'ils ne veulent pas de telle personne. Mais encore plus qu'avant.
Dans ton article, tu consacres de belles lignes au dispositif dans lequel tu es amené à t'insérer. Et vu que tu écris vraiment bien, avec un sens de la formule des fois assez vachard, j'ai fait lire un extrait où justement tu décris les lieux.
Les vitrages omniprésents du bâtiment de la chaîne, situé dans le 15e arrondissement parisien, sont à l'image du traitement médiatique de BFM. Austère, glauque, sans âme. Lorsque l'on sort de la station de métro Ballard, on passe devant le ministère de la Défense. Les éditorialistes et journalistes stars se déplaçant essentiellement en taxi l'ignorent peut-être encore. D'autres médias et grandes entreprises se trouvent dans ce périmètre et dans des arrondissements proches. France Télévisions, le groupe Safran, l'hebdomadaire Le Point, Accor Hôtel. Des lieux de pouvoir cartographiés par le mensuel Le Monde Diplomatique, où se rendaient les gilets jaunes pour protester contre ces médias de maintien de l'ordre social bourgeois et policier. Dans le hall d'entrée de BFM TV, des écrans plats géants diffusent en boucle les émissions du jour. Et des bandeaux composés des phrases choc des invités et des chroniqueurs défilent toutes les secondes. Dystopie. Les Maghrébins et les Noirs sont vigiles, les Cerbères des grands médias, ou font le ménage, comme à France Télévisions et à Radio France. Réalité. Les maquilleuses, pressées par le temps d'antenne et pas très bien rémunérées, se plaignent de certains invités ou éditocrates impolis et pédants, même s'il y a aussi des gens sympas et respectueux.
En gros, le décor est sociologiquement marqué, on va dire.
Oui. Là, franchement, on peut se reporter, même aux travaux des Pinson-Charlot, sur comment l'architecture en soi est une domination et tout de suite te met dans l'ambiance. Là, ce qui m'a intéressé, c'est de me dire que d'entrée de jeu, on n'est pas les bienvenus. Le dispositif, il commence dès la porte d'entrée. Dès le fait qu'il y a, comme dans l'extrait, j'expliquais, les écrans, le fait que ce soit socialement et ethniquement aussi marqué, le fait que les vigiles à l'entrée soient des personnes issues de l'immigration postcoloniale, qu'ils soient à l'accueil. Je voyais qu'il y avait parfois une complicité quand je venais. Ils se demandaient, est-ce que t'es vraiment chroniqueur ? Mais plutôt dans le bon sens, hein, c'était plus en mode, t'es un peu comme nous, et peut-être que tu vas peut-être nous représenter un peu en plateau. Et ça, c'est important, ce dispositif-là, comment ça met dans l'ambiance, et après, c'est dans les couloirs. Donc, c'est les discussions que tu peux avoir avec les chroniqueurs, les chroniqueuses, les invités, les gens que tu croises dans les plateaux. Donc, moi, quand j'allais juste avant le plateau, je pouvais croiser Christophe Barbier qui passait comme ça dans les couloirs. On se dit bonjour, mais... En même temps, t'es tellement, c'est de l'impolitesse de pas dire bonjour. Tu te dis, t'es tellement écrasé par ce dispositif-là que t'es obligé de jouer le jeu. Et d'autant plus que moi, je suis pas là à ce moment-là, j'étais chroniqueur, donc payé par la chaîne. D'ailleurs, je le dis, mes 200 euros bruts, j'ai demandé une augmentation pour tout le monde et on m'a dit next. Voilà, donc j'ai essayé. Mais du coup, voilà, c'est ça qui est important, c'est que je viens pas en invité ponctuel de temps en temps. C'est que quand t'es rémunéré, quand tu viens de manière un peu récurrente, ça t'oblige à une mise en scène de toi-même, à être sympa avec les gens, à rigoler à leurs blagues, à créer une espèce d'ambiance qui fait que tu vas être moins énervé en plein taux ensuite. Tu auras moins de colère, tu vas être un peu plus souple, tu vas essayer de rester dans les clous. Ça, ils appellent ça rester dans l'humeur. Ça, je l'ai beaucoup entendu. Et collègues aussi qui l'ont entendu dans d'autres émissions de télé, rester dans l'humeur, c'est très important dans leur tête et dans leur esprit, et de ne pas franchir le pas, la ligne rouge. Parce qu'il faut toujours rester dans
l'humeur. Pas être désagréable, quoi.
Pas être désagréable, que ce soit avant le plateau et encore plus, du coup, pendant. Mais souvent, les deux sont liés. Et quand je dis en plateau ne pas être désagréable, c'est pas forcément... tu peux avoir des avis politiques différents, défendre Mélenchon, même si t'es extrêmement
difficile. Ne pas conflictualiser, on va dire.
Ouais, ne pas conflictualiser, exactement. Et justement, c'est ça qui les arrange, c'est que de domestiquer des gens comme ça, de se dire, bah, je les ai parce que je les paye, parce qu'ils sont tellement contents qu'on ait le monopole médiatique au niveau des diffusions qu'ils n'ont pas le choix que de venir, donc d'accepter notre dispositif, c'est qu'en fait, ça nous rend moins combatifs ensuite. Et c'est aussi la raison pour laquelle ils sont bien contents d'avoir des gens, même de gauche, mais qui sont d'une classe sociale similaire à la leur. Un peu bourgeois. Des bourgeois de gauche, ils aiment bien ça, parce qu'ils savent qu'ils ne seront jamais trop énervés en plateau. Parce qu'en fait, ils n'ont pas...
On ne s'énerve pas,
voilà, c'est ça, c'est l'espèce de sympathie comme ça, réciproque de classe. On ne va pas trop parler de mort au travail. Moi, je me souviens d'un débat sur les Jeux Olympiques, il y avait David Douillet qui était là. Donc moi, je commençais à parler des accidents du travail pendant les JO. Je parlais du mort au travail qu'il y a eu. David Douillet n'était même pas au courant de son existence, et aussi de tout le travail gratuit. Et là, j'ai eu un lever de bouclier dans le plateau quand j'ai prononcé le mot de travail dissimulé. Ils m'ont tous engueulé en mode « mais attention, là, tu dis quelque chose qu'il ne faut pas dire ». Tu peux dire les JO, attention aux problèmes de sécurité. Tu vois, et vraiment rester dans leur thématique et dans leur manière d'aborder le sujet. Si tu débordes trop, alors là, tu sors du cadre. Quand je disais que tous les trucs de surveillance généralisés pendant les JO vont être certainement utilisés pour l'après, c'est la quadrature du net, on en parlait, Bastamag aussi, vous aussi certainement. Tout ça, on n'est pas dupes de ça, de comment ils instrumentalisent le sport, les techniques de surveillance, les caméras, pour ensuite les utiliser dans les quartiers populaires ou ailleurs. Dès que je dis un truc comme ça, levée de bouclier, là, ils s'énervent, là, ils se crispent. Parce qu'en fait, on parle d'un truc, d'un thème, mais il faut rester dans les clous et il faut surtout pas déborder.
Alors, c'est dans ce contexte qu'arrive le 7 octobre, le jour de l'attaque massive du Hamas en territoire israélien, qui a fait, on le rappelle, 1200 victimes. Et à partir de ce jour, les choses changent pour toi. Tu te fais fouiller de bas en haut comme si, écris-tu, tu devrais prendre l'avion.
À l'entrée du siège de BFM, on me fouille de bas en haut comme si j'allais prendre l'avion, ce qui n'est pas le cas de mes collègues. Un contrôle au faciès effectué par deux personnes issues de l'immigration post-coloniale. On se surveille les uns les autres au service des classes dominantes. Malgré ma barbe parfaitement taillée pour la télévision et mon combo chemise jean de CSP+ bien intégré, rien n'y fait. L'arabe que l'on est toujours suspect. Qui sait, je suis peut-être un membre infiltré du Hamas déguisé en bourgeois pour l'occasion.
Ta description de la situation est assez ironique, mais c'est quand même très violent. Comment le vis-tu sur le coup? Est-ce que les autres le remarquent?
Alors, non, les autres ne le remarquent pas. Alors déjà, la fouille, j'ai vécu seul. Enfin, du coup, pour le coup, j'étais tout seul. Sur le moment, j'étais tellement paniqué de l'idée de débattre de ce sujet-là dans ce contexte-là. J'ai quand même décidé à y aller en pensant, ça j'en parle dans le papier, même à ma famille, je parle de ma grand-mère qui me parle de la Palestine depuis que je suis tout petit. Comme tu connais, c'est des thématiques qui reviennent souvent sur l'oppression coloniale, etc. Donc rien que pour ça, je me suis dit, allez, fais-toi violence, vas-y, sauf que j'ai stressé toute la journée. Forcément, c'est ce que je raconte un peu dans le papier, mais on travaille trois fois plus que les autres en sachant qu'on a des positions politiques beaucoup plus contestataires et difficile en plateau. Donc c'est très stressant, tu prends des notes un peu à l'arrache, finalement je ne les dis même pas en plateau parce que j'arrive même pas à relire ce que j'ai écrit. Ton origine sociale et ethnique aussi joue beaucoup sur comment on va te regarder, comment on va s'adresser à toi, comme tu peux être une femme par exemple, comme tu peux être un homme arabe, etc. Enfin, tout ce qui fait que tu es une minorité en plateau, même pas que politiquement, mais ce que tu incarnes, fait qu'on va être encore plus agressif envers toi. Ça, on le sait, c'est quand même assez bien documenté par vous, par Acrimed, etc. Moi, la fouille, si tu veux, j'ai demandé en après coup si eux aussi c'était le cas. Donc c'était pas le cas. J'ai la confirmation, mais surtout sur le moment. Enfin, vu que je vais passer en plateau, je réfléchis même pas. C'est que là, je pense déjà à l'émission d'après. Je sais déjà qu'ils m'ont menti sur le nombre d'invités, qu'il y en aura beaucoup plus que prévu, ce qui était manifestement le cas. Tout ça, c'est des trucs où j'étais pas naïf, mais en fait, c'est ça le problème de ce genre d'émission, et notamment dans ce contexte-là sur la Palestine, c'est que tu te sens une volonté d'y aller pour défendre tes idées, défendre un massacre qui
la
va se jouer.
Même des points de vue là-dessus.
Oui, exactement. Tu te dis, tu y vas pour ça, tu reçois des messages où les gens ils se disent heureusement que vous étiez là, c'est cool et tout. Donc tu te racontes que c'est important que tu sois là pour ça. Et finalement, sur le moment, tu penses même pas au piège. Enfin, tu te dis, ok, c'est le prix à payer d'être piégé, autant l'anticiper et le faire quand même, parce que si j'y vais, personne n'ira. C'est ce que tu te racontes dans ta tête. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'en ai pas forcément parlé aux collègues, entre guillemets. Et notamment d'avant le plateau.
Alors, tu découvres, comme tu le dis, qu'on t'a menti sur la composition du plateau, et c'est très important parce que les dents qu'on a occultées, en fait, c'est eux qui vont faire la différence et donner une autre coloration au plateau, une coloration bien plus oppressive que le plateau théorique qui t'avait été présenté.
C'est là que tu sens que le plus important pour eux, c'est de servir leurs médias plus que toi servir tes idées. C'est que tu es là pour leur servir la soupe, pour servir leur, comment dire, leur faux semblant de démocratie, en fait, de pluralisme, ce qui pourrait très bien se passer de toi, mais c'est important de jouer le jeu, mais pour eux. Parce que finalement, en fait, vu comment ils te mentent sur le nombre d'invités, c'est que le plus important pour eux, c'est que tu viennes quand même. En fait, c'est ça. Ils voulaient que je vienne. Ils savaient que je pouvais très bien annuler. J'avais toutes les raisons d'annuler, vu le contexte, vu que j'allais me faire insulter. Et ils avaient raison de penser que j'allais annuler. Mais du coup, ils préfèrent mentir, parce que comme ça, ils gardent leur caution. Et comme ça, à l'antenne, ils peuvent avancer masqués et puis ensuite se raconter que, regardez, on a eu quelqu'un de gauche sur le plateau. Mmh. Voilà.
Mais ceux qui ont été ajoutés, c'est important d'avoir leur nom.
Oui, c'est l'éditorialiste Anna Cabana qui travaille I24 aussi, qui est la propriété d'Altis Media, le groupe qui a BFM aussi.
Et qui est une chaîne très, très, très...
D'extrême droite. D'extrême droite...
israélienne, ouais. Franco-israélienne.
Voilà. Mais ça, il y avait des discussions sur cette chaîne-là. Puis d'ailleurs, là, j'ai vu des threads passer sur tous les propos négationnistes horribles qui ont été dits sur Gaza sur cette chaîne-là. On parlait beaucoup de l'interdiction de RT France, la chaîne russe. Et quand j'étais venu parler de RT sur ce plateau, j'avais dit soit on interdit toutes ces chaînes étrangères, si on est cohérent, soit on fait pas du cas par cas, mais le cas par cas, c'est toujours le Quai d'Orsay, en fait, finalement, qui valide inconsciemment. C'est I24, ça arrange le Quai d'Orsay parce qu'ils sont sur les mêmes positions, finalement, peu ou prou. Donc, elle de I24, Arnaud Klarsfeld aussi, j'allais dire intellectuel, mais c'est beaucoup trop sympa de le qualifier ainsi, mais plutôt adepte du roller, c'est ce que je raconte dans le papier, et surtout de ancien sarkozyste, qui fait vraiment partie des nouveaux philosophes, donc à la BHL, Bernard-Henri Lévy, André Glucksmann, voilà, tous ces nouveaux philosophes-là ultra-libérales, et qui forcément ont des accointances avec l'extrême droite, dont ce soir-là.
Le plateau est majoritairement en empathie avec les Israéliens, ce qui peut se comprendre après les atrocités du 7 octobre, mais certains beaucoup moins avec les Palestiniens. Il est très remonté, le plateau contre la gauche est très unanime et même unanimiste de manière générale. Et Ruquier, le taulier, par exemple, débat avec Charles Consigny sur le thème « Ok, Poutou et le NPA sont des salauds, mais est-ce qu'il faut le dire en début, en milieu ou en fin d'émission ?»
C'est quand même assez sidérant. Le NPA, par exemple, de Philippe Poutou, qui est soi-disant un garçon sympathique, a fait une réaction qui est à la limite de l'apologie du terrorisme.
Vous êtes surpris, Charles, pardon de vous dire, vous êtes surpris de ça ? Enfin, vous voyez, c'est des choses...
Est-ce que
franchement, pardon de vous dire ça, mais c'est totalement abject, c'est n'importe quoi ce que racontent Poutou et le NPA, on est d'accord, mais est-ce que franchement, actuellement, vous pensez que là-bas, à Gaza ou en Israël, on fait attention à ce que dit M. Poutou sur le conflit?
Ah non, heureusement
déplacer
pas.
Déplacer ça, mais en France, on va en parler, mais c'est quand même pas la priorité des choses que dit M. Poutou sur le conflit israélo-palestinien. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression, mais quand même.
Alors, tu dois faire entendre ta petite musique, en réalité, ta grosse divergence dans un cadre qui est planté, celui des évidences partagées. Comme on vient de le voir, et ta stratégie, c'est de documenter un max tes propos, ce qui n'empêche pas Arnaud Klarsfeld de les balayer du revers de la main de manière très, très désagréable.
Oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas été assez précis, notamment dans leur condamnation de ces violences-là. Mais après, moi, j'ai découvert récemment un éditorial du quotidien Haaretz qui pointait la responsabilité de Netanyahou. Il parle de gouvernement antidémocratique d'extrême droite, c'est l'éditorial. D'annexion et de dépossession qui nie l'existence des droits des Palestiniens. De nombreux Israéliens pensent comme ça.
Quand vous parlez de Haaretz, Haaretz, c'est un journal qui représente même pas 1% des lecteurs en Israël. C'est un journal ultra minoritaire.
Un journal, normalement, ce n'est pas un parti politique. Haaretz, comme les autres, doit se juger à la crédibilité de ses informations et de ses analyses et non pas à ses parts de marché politique. Mais bon, Klarsfeld se lance dans un plaidoyer pro-domo pour l'État d'Israël.
Deuxièmement, Israël veut la paix. Israël a accepté tous les compromis depuis 1936, où il y avait la commission Peel qui avait proposé un partage avant même 1948. En 1948, Israël aussi a accepté un plan de partage. En 2001 aussi, Israël a accepté ce plan de partage.
Alors, bon là, c'est faux, hein, cette histoire d'acceptation de tous les compromis, vu le nombre de résolutions onusiennes, justement, sur le partage territorial rejeté par l'État d'Israël. Mais sur un tel plateau, seul contre tous et surveillé, j'imagine qu'on ne peut pas tout réfuter. Alors, tu réagis à l'équivalence qu'Arnaud Klarsfeld essaie d'établir, palestinien égale Hamas égale terroriste, et sa réponse est d'une violence incroyable.
Avec un parti comme ça, il est impossible de faire la paix.
Le Hamas est créé en 1987. Le processus de colonisation et d'apartheid avait déjà commencé bien avant les expropriations.
Il n'y a pas d'apartheid en Israël. Si vous pensez qu'il y a un apartheid en Israël, vous avez le droit de le penser. Vous pouvez rejoindre aussi le Hamas si vous voulez.
Bah, moi, je disais le contraire, justement. J'étais en train de vous dire qu'il était minoritaire parmi les Palestiniens eux-mêmes.
Alors, Selim, pas besoin d'être un expert pour y voir l'expression d'un racisme froid, venimeux même, avec le sourire. On est d'accord là-dessus?
Oui, bah, à fond. Oui. Moi, je ne l'ai pas entendu sur le moment. C'est ma famille et des amis qui l'ont capté. Forcément, c'est tellement écrasant et tellement terrifiant comme dispositif qu'on n'entend pas tout, on ne voit pas tout. Et si on arrive à donner quelques éléments, quelques argumentations, c'est déjà miraculeux. Donc finalement, le reste, c'est comme un espèce de bruit de fond tout autour de toi. Même, je pense qu'inconsciemment, tu peux capter qu'il y a des choses qui se disent, mais pour ta défense et pour être plus efficace encore dans ton argumentaire et essayer de garder le sang-froid, t'évites de le comprendre, enfin de le capter. Je sais pas si.
Mais aussi le choc quand on ne s'attend pas à un certain nombre d'agressions, on ne réagit pas. Et puis c'est 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, on s'en veut de ne pas avoir réagi. Mais en fait, parce que on s'y attend pas, le choc est grand. Il y a un petit moment de déni. Il y a toujours une volonté de garder le contrôle, de ne pas exagérer. On a intériorisé tous les arguments sur la paranoïa de ces gens-là, le fait qu'ils en font trop, etc. Et donc, on a besoin d'un moment de réflexion pour savoir si on réagit ou pas. Mais le problème, c'est que ce moment de réflexion fait qu'on est déjà passé à autre chose. Alors, la discussion se poursuit selon le mode suivant. Quand c'est ton tour de parole, tu te fais vite interrompre. Et les intervenants d'après mettent un point d'honneur à te contredire, deux ou trois en général. Tu ne te décourages pas et tu essayes d'expliquer quelque chose qui relève du concept. Or, ce plateau, il est dans l'affect. En gros, c'est le colonisateur qui fixe le degré de violence. C'est ce que tu essayes d'expliquer.
Historiquement, on a tous fait de l'histoire ici. On sait très bien que par rapport à la colonisation, ce qui maintient le degré de violence, c'est le colonisateur plus que le colonisé qui le maintient. On a l'exemple, par exemple, du FLN aussi en Algérie. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un groupuscule armé dont la population algérienne n'était pas forcément du tout d'accord avec les méthodes d'action du FLN. Mais quand on laisse pourrir la situation comme ça, quand il y a par exemple 2000 morts palestiniens l'été 2014 et qu'il n'y a pas de soubresaut international à ce sujet-là, donc forcément ça crée, ça alimente des colères.
Moins de 30 secondes et tu es déjà contredit, à la fois par Églantine Delalleux, journaliste politique, et par Arnaud Klarsfeld, qui convergent en gros dans un sens, tu dis n'importe quoi.
Il y a eu des rassemblements.
Ça ne les justifie pas.
Expliquer, ce n'est pas ça.
Il y avait même eu des rassemblements.
Les Palestiniens auraient pu avoir leur État depuis 1948. Ils auraient pu avoir leur État en 1967. Les territoires avant étaient jordaniens. Ils auraient pu avoir leur État en 2001. Mais maintenant, s'ils ont un État, ils sont obligés d'expliquer à leur population. On vous a fait souffrir pendant longtemps, on vous a volé pendant des décennies, et maintenant vous allez avoir un État qui est bien plus petit que celui que vous auriez pu avoir en 48. Il y a une responsabilité terrible des leaders palestiniens qui ont sacrifié leur peuple alors qu'ils auraient pu avoir leur État il y a bien longtemps.
Églantine Delalleux, vous voulez ajouter quelque chose au Selim?
Oui, en 2014, il y a eu des rassemblements pro-palestiniens à Paris, en France, et il y avait même à ce moment-là des manifestants qui criaient « mort aux Juifs » qui passaient devant des synagogues en crachant.
Toi, tu essayes de rebondir une fois de plus en construisant un propos politique et en le documentant.
Il peut y avoir aussi des remarques anti-arabes. Enfin, là, c'est pas le sujet.
Oui, non, mais bien sûr, mais comme on parlait de 2014, il n'y avait rien eu, il y a eu des manifestations.
Contre le colonialisme, d'une manière générale, en fait, de tous les colonialismes, de tous les pays. Mm-hmm. Donc c'était ça le point central. Et comment dire, là on parlait du quotidien Haaretz, mais en fait personne ne veut de mort de civils en France. Enfin, personne ne veut ça. Et du coup les débats sont là-dessus entre les chercheurs qui ont travaillé le sujet pendant très longtemps. Ils se disent, mais qu'est-ce qui peut arrêter cette escalade de violence? Donc il y en a qui vont dire, il faut qu'on arrête avec la colonisation, il faut qu'il y ait un État binational, il y en a plein qui le proposent. C'est des débats très importants à avoir.
Et puis Anna Cabana, D24 News, réplique et explique que de toute façon, le CNRS dont tu convoques les chercheurs du CNRS sont en quelque sorte ton bouclier, eh bien c'est de la merde. Ce qui est vrai et factuel, c'est l'islamo-gauchisme.
Vu que le CNRS, en 2021, avait déclaré qu'il n'y avait pas de réalité à l'islamo-gauchisme, que l'islamo-gauchisme, au fond, était un concept qui ne devait pas exister dans le débat public français. Et ben, à la vérité, depuis samedi, Et il faut s'en désoler. Depuis samedi, on a la preuve, la démonstration chimiquement pure que l'islamo-gauchisme existe en France. Voilà, on en a la preuve et on en a la preuve. On a des déclarations des uns et des autres, c'est-à-dire que le communiqué officiel du groupe parlementaire des Insoumis, les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, les déclarations de Louis Boyard.
Qu'en vous, hein. Je pense que je préfère avoir confiance au CNRS que vous, quand même. Je pense que je suis pas le seul parmi les gens qui nous regardent aussi.
Non, mais le CNRS en 2021 a dit ça. Aujourd'hui, il ne pourrait plus le dire. Aujourd'hui, même les modérés.
J'attends le reportage. Vous allez interviewer pas mal de chercheurs.
Si vous n'aimez pas le mot islamo-gauchisme, on peut dire le gauchisme islamiste. Mais la question de l'islamo-gauchisme aujourd'hui, elle est plus contestable. Parce que
si vous le pensez.
C'est l'intersection entre l'islamisme et le gauchisme. Je crois qu'on en a une preuve assez chimiquement pure dans les déclarations des LFI. Vous ne trouvez pas? Ça vous paraît pas être assez net?
Puisqu'on est dans le sujet.
Non, pas forcément.
Appelez ça comment alors? Mettez un mot?
Je sais pas, allez demander aux chercheurs par exemple. Vous pensez qu'il y a vraiment des travaux d'études qui sont basés sur l'islamo-gauchisme?
Comment vous appelez au fond ces déclarations de Jean-Luc Mélenchon, de Louis Boyard? Vous appelez ça comment?
Moi, je l'appellerai pas.
Mathilde Panot, bien sûr, et d'autres encore.
Alors, Selim, j'ai tenu à ce qu'on voit de larges extraits de cette émission et surtout ce sketch, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, d'Anna Cabana. En fait, j'ai l'impression que malgré le peu de temps de parole qui t'a été laissé, tu as été celui qui remet un peu en crise le dispositif en étant celui qui, même avec les expressions du visage, avec quelques mots, remet en cause les évidences pérorées. Est-ce que tu fais la même analyse?
Oui, en fait, pourtant... Sur le moment, quand je parle du colonisateur qui fixe le degré de violence dans un conflit colonial, un parallèle avec le Front de libération nationale algérien, j'ai pas l'impression de dire des choses incroyables non plus. Enfin, tu vois, c'est des choses que disait Bertrand Badi, le chercheur juste après, que vous avez reçu ici par ailleurs. C'est que là, t'es un peu dans un univers parallèle où effectivement, comme tu dis, c'est l'affect qui prime. Alors leur affect, c'est toujours à nous de s'indigner de leur affect, de l'affect des dominants plutôt que le contraire.
On doit s'adapter à eux.
Moi, ce qui m'a rendu profondément triste à ce moment-là, c'est qu'effectivement, tout ce qui était les morts, les 2500 morts en 2014 sous Hollande des Palestiniens, pas de tour Eiffel illuminée, pas de plateau télé, pas de une, rien du tout. Et c'est ça, c'est deux poids, deux mesures. Et moi, ce que j'essayais de dire à ce moment-là, peut-être un peu naïvement, parce qu'encore une fois, t'es un peu tiraillé en te disant ça va servir à quelque chose pour ceux qui t'écoutent un minimum, ou essayer de convaincre. Et là, tu te dis, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez créer un dispositif qui fait que des vies arabes valent moins. En fait, et ça va aller en.
C'est le sous-entendu permanent.
Et ça, en fait, à la limite, en étant dans un rôle au moment de l'affect, etc. Je me suis dit efficacement, le plus efficace que je peux être le 9 octobre, c'est d'au moins de prévenir sur le fait que le traitement médiatique qu'il y a, qui fait tout démarrer depuis le 7 octobre, est extrêmement problématique, même pour plus tard. Tu vois, c'était un peu stratégique aussi, je réfléchis, je me dis comment je vais prendre le débat.
Tu plantes des graines.
Je prends des graines, exactement, en me disant peut-être que ça peut avoir une conséquence, etc. Moi, ce qui m'a déçu aussi, c'est que là, tu cites Anna Cabana sur le CNRS et l'islamo-gauchisme, parce qu'elle est avec Jean-Michel Blanquer qui a théorisé ça, donc islamo-gauchisme.
C'est la femme de Jean-Michel Blanquer,
exactement. Et en fait, si on l'écoute, il y a au moins, je sais pas, trois fois par mois, où elle va réciter ce
l'ancien
concept.
L'ancien ministre de l'Éducation nationale,
t'as raison de
Emmanuel
le préciser.
Macron, pour ceux qui ne le savent pas.
Exactement. Et en fait, moi, ce qui m'a déçu, c'est par exemple le lendemain de cette émission, finalement, on n'a retenu que ça. Même à gauche, même dans des cercles et tout, c'était l'extrait qui a été pris. C'est quand je me moque d'Anna Cabana que tout le monde a plus confiance au CNRS qu'en elle, parce qu'elle n'est pas crédible. Parce qu'ils sont souvent très bêtes, hein. C'est comme tu dis, c'est pour ça que j'ai le papier, il est un peu drôle aussi. C'est qu'il ne faut pas les prendre trop au sérieux, ils sont quand même très débiles. C'est juste qu'ils ont les clés et l'argent de certains dispositifs, mais maintenant on s'en sort sans eux, vous le prouvez aussi. Mais du coup, ouais, ça m'a un peu déçu. Je me suis dit, non, mais là, franchement, ça sert d'autant plus à pas grand chose qu'en fait, quand il va.
Non, moi je ne suis pas d'accord.
Oui, bah, justement, on en parlait, tu me disais que tu n'étais pas trop d'accord.
Je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, il faut démasquer en fait.
Alors ça, t'as raison. Oui,
de manière générale,
c'est vrai.
Les détails,
là, c'était bien
les arguments.
Pour démasquer.
Fait, on n'est pas sur ce soir ou jamais de Tadei. On est dans une sorte de démonstration et même de théâtre d'ombre et même de théâtre grotesque. Et dans le fait de démasquer, le fait de ridiculiser, je pense que ça a une importance politique.
Je pense que c'est bien d'y aller comme j'ai fait en me disant que de l'intérieur, et notamment quand tu es chroniqueur, entre guillemets, tu peux le raconter ensuite, le dispositif, tout ce que je raconte, etc. Par contre, au fur et à mesure que tu restes dans ce dispositif-là, au fur et à mesure que les médias aussi se radicalisent dans leur extrémisme bourgeois et d'extrême droite, BFM court après CNews, hein, c'est ce que je raconte, tout le monde le constate aussi. BFM, avant, c'était, on pouvait dire, chaîne libérale, macroniste, maintenant, c'est extrême droite aussi, mais comme le paysage politique et médiatique global, en fait. C'était vrai, il y a, je pense qu'il y a 10-15 ans, tu pouvais te permettre d'être chroniqueur. Ah, on n'est pas couché, passer souvent à Ce soir ou jamais, qui était une excellente émission à l'époque, etc. Maintenant, vu que tout bascule et tout s'extrémise aussi à droite, la question se pose. Après, moi, je ne regrette pas du tout d'y avoir été pour raconter tout ça, pour avoir encore plus de clés et de billes pour me dire, effectivement, on n'a rien à faire là-bas, à part y aller potentiellement en tant qu'invité ponctuel. Ça, c'est encore différent. Moi, je parle plutôt du fait d'être vraiment chroniqueur de ces chaînes-là, régulier, en te racontant que tu es la caution et finalement, tu vas apporter du soutien aux gens qui t'écoutent. Mais en fait, la plupart des gens qui regardent ces chaînes-là, c'est comme nous, comme toi et moi, si on zappe, on est déjà souvent convaincus. On ne va pas se laisser convaincre.
Ah, je ne suis pas sûr non plus. Je pense que justement, les milieux populaires regardent beaucoup la télé, ils regardent beaucoup BFM.
Ouais.
BFM est une chaîne qui est regardée par... c'est comme Hanouna. On ne peut pas se mentir en pensant qu'Hanouna n'est regardé.
Mais tu vois, mais Hanouna, c'est un bon exemple. C'est que le dispositif d'Hanouna est tellement écrasant que finalement, tu n'en ressors jamais vainqueur.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, ce dispositif, le dispositif des médias mainstream, a des effets sur les classes populaires parce qu'elles regardent beaucoup la télé.
Je pense que tu as raison, mais plutôt en invité. De ponctuel, mais vraiment en analysant si un minimum au niveau des invités, etc., tu peux avoir un minimum de parole. Mais par contre, quand tu es régulier comme ça, t'as vraiment le sentiment, qui est même pas un sentiment, qui est très concret, d'alimenter leur machine à leur service, à leur à leur imaginaire, à leur vision d'illusion de la démocratie, pardon, je vais y arriver. Et là, plutôt que toi et tes idées.
Tu peux aussi choisir la stratégie du troll, celle de Philippe Poutou, qui est en réalité une ressucée de la stratégie de Georges Marchais, voire de Jean-Luc Mélenchon,
qui
accepte le conflit, sachant que de toute façon, s'ils sont là, c'est parce qu'on ne peut pas non plus les empêcher d'être jamais là, et qui déploient leur stratégie.
Poutou, déjà, il peut être juste invité, encore une fois. Et je me souviens que la dernière fois qu'il est passé sur BFM, il avait dit, par rapport à arrêtons de juste critiquer le méchant Bolloré, le patron, etc. Vous aussi, vous avez des patrons, des gros patrons. Et il a commencé à critiquer l'ancien patron de BFM.
Patrick Drahi.
Patrick Drahi, merci de me rappeler. Là, je me souviens qu'il y avait un lever de bouclier énormissime sur le plateau. C'était catastrophique. Je ne sais pas s'il a été beaucoup réinvité depuis ou alors pour prendre le micro de je ne sais où, hyper loin, pour parler même pas 5 minutes. Mais en plateau, il n'est pas pour l'instant revenu. Mais en général, ils ne veulent quand même pas qu'on franchisse une ligne rouge. Il faut être vraiment dans les clous. Donc là, Poutou, par exemple, il est sorti du cadre. Et ça, en général, ils détestent. Et en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne te réinvitent pas, tout simplement. Moi, il faut que
Après cette émission, réinvité ?
Oui, c'est ça. C'est que je n'ai pas été réinvité pendant quasiment 3 semaines. Ça, c'est important aussi. C'est qu'ils ne voulaient vraiment pas de moi non plus après. Moi, je n'attendais pas forcément de leur part. Mais pareil, dans mon analyse, et comme tu le décris très, très bien, c'était intéressant de constater qu'effectivement, dès que tu sors trop des clous, là, ça ne leur va plus.
Ils organisent ta rareté. Et puis, toi, si tu as besoin d'argent, tu peux te dire il faut que je sois quand même assez agréable pour qu'on m'invite.
Oui, tout simplement. C'est comme ça qu'ils te maintiennent aussi.
Alors, tu dis n'avoir été convié au final que 4 fois, en tout et pour tout, pour une émission qui a duré 3 mois. Alors,
j'en ai refusé quelques-unes parce que les thématiques c'était n'importe quoi. Et, voilà.
Par exemple ?
Je sais pas, ils voulaient que j'intervienne sur l'Arménie. Et genre, moi, je leur ai dit non, moi, je connais pas du tout l'Arménie. Enfin, essayer un minimum de pas faire les programmateurs et programmatrices feignants qui ont les sujets à midi et qui font ça à l'arrache. Bosser un peu quand même et soyez cohérents dans vos choix, quoi.
Alors, pour revenir au dispositif de cette émission, 20h Ruquier, pourquoi, à ton avis, n'a-t-elle pas marché ? Ton avis est d'autant plus intéressant que tu étais, il y a quelques années, au cœur du dispositif des émissions de débat de Frédéric Taddeï, qui a marqué la télévision, notamment le service public. Pourquoi le 20h Ruquier n'a pas marché alors qu'on n'est pas couché, le Ruquier marchait ? Pourquoi ? Là, c'est un échec.
Là, c'est un échec parce que, en fait, Ruquier, il a eu l'expérience du fait qu'aujourd'hui, le dispositif est plus fort que lui. C'est-à-dire que les animateurs, ils peuvent changer comme ça de chaîne, un peu en mode chaise musicale, merci. Mais que finalement, voilà, le dispositif est plus fort. Et là, finalement, BFM avait, on cadenassait un peu Ruquier. Même si je pense qu'il n'allait pas faire de grands trucs, c'était pas à l'époque, comme tu dis, de Ce soir ou jamais, de Frédéric Taddeï, où tout le monde voulait passer, qu'il y avait du temps pour tout le monde, il y avait vraiment des points de vue qu'on n'entendait pas du tout ailleurs, qui passaient, Lordon, Rancière, Françoise Vergès. Enfin, c'était ça, cette émission. Là, non, c'est pas. Le dispositif est plus fort. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'ils ont tellement peur, en fait. Ils ont tellement peur, plus qu'avant, qu'ils vont resserrer la vis encore plus. Et c'est pour ça que médiatiquement, c'est de plus en plus compliqué d'en placer une. Et moi, je suis assez mitigé aussi sur les discours qui veulent qu'il faut que ça change de l'intérieur, enfin, de plus en plus, enfin, même depuis très longtemps, que ce soit que ces chaînes-là, que ces médias-là soient moins racistes. C'est pas ça le problème, c'est qu'en fait, ces médias-là existent en tant que tels. Et ce qu'ils veulent véhiculer, c'est toujours en faveur des classes dominantes. Et ça, ils vont pas changer. C'est pas BFM, on va changer quelques têtes comme ça. Non, le dispositif reste comme ça. Ça reste des patrons qui ont une vision du monde qui est déterminé. Vu que là, ils ont de plus en plus peur, ça se crispe de plus en plus. Ils ont peur de la France insoumise, ils ont eu peur des gilets jaunes à un moment, ils ont peur des manifs contre les violences policières, ils ont peur, donc ils resserrent.
Ils ont peur des jeunes,
ils ont peur des jeunes.
Le péril jeune.
De manière générale, exactement. Donc par conséquent, ça ne va pas du tout aller en s'arrangeant et ils vont faire en sorte de garder les clés le plus longtemps possible de leurs propres médias.
Donc c'était à refaire, non?
Non, mais inviter de manière très ponctuelle, en réfléchissant vraiment si ça vaut le coup à ce moment-là, etc. Et éventuellement, mais sinon pas en tant que chroniqueur, mais ça je le savais, mais c'était beaucoup plus intéressant de le constater et de le verbaliser, de l'expliquer structurellement ce que ça raconte et en quoi travailler notamment pour eux c'est quelque chose qui est vain quand tu partages pas du tout leurs idéaux politiques et sociaux.
Alors tu étais au cœur donc de la machine de Frédéric Taddeï, qui a organisé des émissions de débat. Et alors j'ai l'impression que le débat est de plus en plus compliqué à faire admettre, y compris au public. Et j'ai par exemple lu que les études d'audience, ce sont les études d'audience qui ont convaincu les programmateurs et la direction de CNews de diminuer la contradiction. Et même dans les commentaires, même ici aux médias, on a vraiment l'impression que les gens sont progressivement irrités par la contradiction, d'autant plus que YouTube, les réseaux sociaux permettent à des discours de se déployer, et c'est bien, parce qu'en fait, la contradiction peut... Enfin, il ne faut pas que de la contradiction, il faut aussi des moments où quelqu'un a le temps. Mais est-ce que, finalement, la contradiction, je lui n'ai pas un peu déclassée.
Si, il y a un peu de ça, mais pour les opinions contestataires, c'est très légitime. Mmh. Parce que pour toutes ces raisons-là de dispositif qui ne collaient pas, on est toujours minoritaire, c'est toujours compliqué. Du coup, là, on crée nos propres espaces. Donc ça, c'est assez légitime. Par contre, de leur part, c'est juste, hein, comme je disais juste avant, ils ont peur et ils veulent resserrer le truc le plus possible. Et les contestations qu'il peut y avoir en débat, ça leur donne tort. Et ça, ils en ont une peur bleu. Par contre, dans nos milieux, il peut y avoir des débats intéressants à faire, mais encore une fois, c'est la question du cadre. C'est le temps, c'est qui on place en plateau, est-ce que les personnes ont le même niveau pour répondre. Tout ça, ça se réfléchit, ça met des jours. Je travaille avec Frédéric Taddeï pendant très longtemps, donc je sais composer des plateaux. C'est quelque chose qui est très compliqué à faire. Il faut savoir qui peut dire quoi exactement, si tous les points de vue sont bien représentés, s'il n'y a pas trop de monde en plateau. C'est des trucs qui se réfléchissent énormément en amont. Et ça, de notre côté, nous, on peut l'organiser. Et moi, je préférais limite de plus en plus faire des débats semi-internes, c'est-à-dire des débats. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais ça peut être sur des décroissants avec des personnes qui sont plus des technologies qui veulent low cost. Enfin, tu vois ce que je veux dire, enfin, des débats plutôt internes. Je trouve ça un peu plus pertinent parfois à réaliser.
Et surtout des débats sur des positions
qui ne sont pas aussi divergentes. Parce que sinon, c'est un brouhaha. Et en fait, c'est du clash et c'est plus du débat. Du débat, en fait, il faut se dire que avec Frédéric, on en parlait beaucoup. C'est comment faire. Comment expliquer qu'à partir du moment où des gens ne sont pas d'accord, on comprend mieux ce qui se passe. Et ça, c'est très important, même dans nos débats internes stratégiques sur les violences policières, économiquement, sur l'anticapitalisme, etc. C'est des questions qui sont extrêmement importantes, qui nous traversent du matin au soir, même dans nos camps respectifs. Mais c'est très important pour mieux comprendre quel est le problème, en fait, pour mieux comprendre le monde, d'une certaine manière.
Merci Selim Derkaoui. Je rappelle ton article dans Frustration Magazine, le site internet de Frustration Magazine qui est gratuit. Le titre du papier, vous pouvez rejoindre le Hamas si vous voulez. Mon éphémère expérience de chroniqueur sur BFM TV. Voilà. C'est la fin de cette édition des Combats de l'Info. Si vous avez aimé, likez, partagez. Et surtout, si vous en avez les moyens, prenez un abonnement de soutien aux médias, à Frustration Magazine aussi, ou faites-nous un don en allant sur lemediatv.fr/soutien. À très vite.